Bonjour à tous et à toutes. C'est Paul qui parle. Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Paul nous témoigne ici que nous sommes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. La foi est le moyen unique d'accéder au salut offert par Dieu en Jésus-Christ. La foi dépasse le simple cadre de la croyance. On peut croire que Jésus a existé, mais ne pas avoir foi en lui. La foi est un don de Dieu. Elle est confiance totale, elle est assurance, elle est démonstration des promesses de Dieu dans notre vie. La foi fait partie du plan du salut de Dieu pour tous les hommes. Elle fait partie à parts entières de ce plan du salut. Alors depuis quelques semaines, les différents prédicateurs ont parlé ou parleront de ce qui fait partie des 5 piliers de la foi chrétienne, appelés les 5 solas de la Réforme. Vous les connaissez certainement. La Réforme avait exprimé 5 convictions profondes de la foi chrétienne, qui commencent par Soli Deo Gloria, qui veut dire « Dieu est le seul qu'il faut adorer et prier ». Ensuite, Sola Gratia. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts et de nos mérites, mais s'obtient par la grâce seule. Solus Christus. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et nous. Sola Fide. Le salut n'est pas donné par des œuvres, mais par la foi seule. Et enfin, Sola Scriptura, la Bible est l'autorité suprême en matière de doctrine. Alors ces 5 soli peuvent être rassemblés en une seule phrase. Une seule phrase qui, mis bout à bout, résume le plan du salut de Dieu pour tous les hommes. La Bible nous dit que Dieu nous a sauvés par grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Les 5 soli de la Réforme sont réunis dans cette unique phrase dont nous pouvons trouver ce verset dans la Bible en Éphésiens 2, verset 8. Et c'est de la foi ce matin que je viens vous parler. Alors pour parler de la foi, j'aurais pu prendre bien des passages de la parole de Dieu. Le sujet est vaste, et il prend presque tous les livres de la Bible. J'aurais pu prendre le passage de Romains chapitre 3, qui parle de la justification par la foi en Jésus-Christ. Mais je crois que ce que nous enseigne ce passage révèle à lui seul tout ce que je pourrais en dire. J'aurais pu prendre aussi les chapitres 4 de Romains et les chapitres 11 de l'Épître aux Hébreux, qui nous parlent des exemples d'hommes témoins de la foi et justifié par la foi. Mais ces passages se prêtent surtout à la lecture et pas aux commentaires. La foi, c'est le moyen visible et personnel dans notre vie d'accès au salut. J'ai pensé important donc de prendre un passage qui témoigne de cette manière visible et donc puissante de la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies par le moyen de la foi. Et j'ai donc choisi un homme qui place sa confiance en Jésus-Christ à un moment bien particulier de sa vie. Et ce n'est pas n'importe quel homme. Je vous invite à lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23. Et nous allons lire du verset 35 à 43. Alors nous sommes en période de Noël, mais cela n'empêche que si Jésus est venu dans notre vie, c'est pour donner sa vie pour nous. Et ces versets nous parlent de ce moment où Jésus est venu donner sa vie pour nous. Je lis à partir du verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant de lui et présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait. L'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alors Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors le passage que nous venons de lire se trouve dans l'Évangile de Luc. Luc, médecin de profession et grec de culture, va s'attacher à témoigner dans cet évangile de la véracité de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et le chapitre 23 se situe à un moment précis de la vie de Jésus, qui va de l'inculpation de Jésus pour atteindre un point culminant qui est sa crucifixion à la croix et sa mort. Et le passage que nous venons de lire se situe à un moment précis entre la crucifixion de Jésus au verset précédent et sa mort. Et pendant ce laps de temps, nous avons une fenêtre ouverte sur un moment particulier et unique qui montre la transformation de la vie d'une personne que l'on n'attend absolument pas à ce moment-là, au crépuscule de sa vie. Alors plantons un petit peu le décor de ce moment particulier. Nous sommes entre la troisième et la neuvième heure, entre certainement 9h et midi. Et pendant ce moment, bien des choses vont se passer. Jésus est crucifié vers la neuvième heure et nous savons que la foule est nombreuse autour de lui. Les versets 35 et 36 nous disent qu'il y avait presque toutes les classes sociales qui étaient représentées. Le peuple, les badauds qui regardaient, les magistrats qui avaient condamné Jésus et les soldats qui l'avaient amené là. Les quatre évangiles nous témoignent de la crucifixion de Jésus, vous le connaissez. Mais les quatre évangiles nous apportent des compléments d'informations, des vues un peu différentes les uns des autres pour nous témoigner de ce moment particulier. Nous avons ainsi dans l'évangile de Marc et de Matthieu, nous savons qu'il y avait aussi des principaux sacrificateurs, des scribes, des anciens qui étaient là et qui se moquaient. L'évangile de Jean nous précise qu'il y avait des personnes bien connues, et il les nomme Pilate, Marie mère de Jésus, Marie Magdala, ainsi que Jean, disciple de Jésus. Ces personnes étaient là présentes et sont nommées. Et bien évidemment, les quatre évangiles nous disent qu'il y avait à côté de Jésus deux brigands. Deux malfaiteurs crucifiés, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ainsi était accompli ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, en Ésaïe 53, verset 12, « Il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Nous avons donc autour de Jésus toute une représentation de personnes qui ont participé à la vie de Jésus, en bien ou en mal, et qui, au moment de sa mort prochaine, sont là, pour beaucoup. Alors que fait cette foule ? D'un peu plus près, nous voyons que tous les protagonistes ont une attitude à ce moment-là précis. Nous pouvons facilement imaginer les sentiments que peuvent éprouver Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, ainsi que Jean, disciple de Jésus. Nous pouvons le comprendre, nous pouvons l'imaginer. Pour le reste, les sentiments sont assez durs. Les badauds regardaient, certains se moquaient, d'autres l'insultaient. Vous savez, quand je lis ce passage, ça me fait penser un petit peu à la Révolution française. À la Révolution française, au XIXe siècle, on guillotinait presque jusqu'à 100 personnes par jour. Par jour. Et lorsqu'on guillotinait ces personnes, à chaque fois, il y avait tout un cérémonial. On battait des tambours, la foule venait, les parents, les enfants, les amis, les oncles, les tantes. Et plus on approchait la personne de la guillotine pour la guillotiner, et plus il y avait une effervescence qui montait dans la foule. Et plus les gens insultaient, criaient, levaient les bras, même les enfants, jusqu'à atteindre un paroxysme qui était la guillotine de la personne où tout le monde applaudissait. On peut imaginer un petit peu l'ambiance, peut-être pas la même, mais l'ambiance qui pouvait être à ce moment-là, pesante, lourde. Et nous en avons dans Matthieu et Marc, dans ces deux évangiles, le témoignage de l'attitude des deux brigands à ce moment-là. Il nous est dit que les deux brigands qui étaient crucifiés avec Jésus, les deux l'insultaient aussi. Luc ne donne pas l'attitude de départ des deux brigands. Mais en tout cas, de toute évidence, les deux brigands étaient à un moment donné dans le même état d'esprit que la majorité de la foule, portés par la foule. Ils étaient deux à être crucifiés en même temps que Jésus, deux hommes conduits par leur crime au pire châtiment de l'époque, et malgré la honte et les terribles souffrances de leur crucifixion, ils se joignent à la foule pour insulter Jésus. Luc nous dit au verset 39 que l'un d'eux dit « Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Ce brigand se moque de Jésus tout en réclamant d'être délivré de la mort qui l'attend à cause de son péché. Mais sans en juger la cause, sans reconnaître ses fautes, il veut descendre et continuer sa vie. Et c'est à ce moment-là précis, à ce moment-là, après ces paroles, que les choses vont changer pour le deuxième brigand, pour celui qui est crucifié de l'autre côté de Jésus. Regardons un petit peu le cheminement de cet homme dans ses derniers instants, dans simplement ces deux versets qui nous est dit sur lui. Le brigand à la croix, comme l'autre, est sous le coup de la peine capitale. Et pour les Romains, cette sanction était appliquée aux esclaves, aux hommes coupables des crimes les plus abominables. Ce brigand était donc coupable certainement de faits très graves. Il avait donc dû paraître devant le tribunal des hommes pour être jugé par la sanction suprême qui est la mort par crucifixion. Ce n'était donc que juste sanction pour toute son œuvre. Mais lorsque l'autre brigand se met à se moquer de Jésus, il prend conscience tout à coup de la crainte de Dieu. Il est renvoyé vers lui-même. Il dit au verset 40 à l'autre brigand, en le reprenant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même condamnation ?» Ces paroles nous témoignent d'une crainte qui l'envahit. Et certainement par la prise de conscience, tout à coup dans sa vie, de sa condition de pécheur. Et cette réalité de pécheur, c'est le constat qui est fait pour l'humanité tout entière. En Romains chapitre 3 au verset 23, qui nous parle de la justification par la foi, il nous est dit justement, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul de juste, même pas un, même pas un. Et c'est le constat que fait ce brigand à la croix sur sa propre vie. Il dit encore à l'autre brigand, « Pour nous, ce n'est que justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Ce brigand reconnaît en examinant sa vie que le jugement qu'il atteint est mérité. Nous sommes là au début d'une vraie repentance. Il reconnaît que le jugement qu'il atteint est mérité. Si la foi est la condition essentielle du salut, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Le premier message de l'Évangile est « Repentez-vous et croyez ». Marc chapitre 1, verset 15. « Repentez-vous et croyez ». Et c'est ce qui se passe pour ce brigand à ce moment-là. Il est convaincu de son péché. Il le confesse publiquement. Et en reprenant l'autre malfaiteur, il abandonne finalement ce qui avait fait sa vie. Il marque une rupture avec ses mauvaises habitudes suivies jusqu'alors et qui l'ont mené jusqu'à cette croix, en se dressant face à un autre brigand qui est finalement l'image de ce qu'il est, l'image en tout cas de ce qu'il était jusqu'à ce moment-là. Et à partir de là, sa courte existence qui lui reste à vivre va changer. Ce brigand a déjà fait un sacré chemin en étant pourtant crucifié à une croix. Il ne peut pas bouger, pourtant sa vie est déjà en train de changer. Et ça va encore aller plus loin. Il dit à l'autre brigand, « Ce Jésus que tu te moques n'a rien fait de mal. » La reconnaissance de son péché l'a mis devant une réalité. La vérité lui est désormais visible. La vérité de Dieu lui est désormais visible. Il reconnaît que Jésus est innocent, lui qui se moquait avec les autres de Jésus. Et par là même, finalement, ne reconnaît pas la sanction des hommes à l'égard de Jésus. La sanction des hommes à l'égard de Jésus. Savez-vous pourquoi Jésus a été condamné ? Pour quelle décision de justice a-t-on condamné Jésus ? Pour quel fait acté a-t-on proclamé la sanction suprême de la mort pour Jésus-Christ ? Les Juifs nous le disent en Jean 19. Nous avons une loi, et selon notre loi, Jésus doit mourir. Jésus doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Jésus a été condamné parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. L'autre brigand ne reconnaît plus cette sanction comme étant juste. Jésus n'a rien fait de mal. Et finalement, à travers cela, nous nous rendons compte que ce brigand commence à comprendre et même reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Le brigand va l'attester. Il va attester que Jésus est roi et va placer sa confiance en lui. Le verset 42 pourrait être presque une prière que ce brigand adresse à Jésus. Une prière à ce moment-là. Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ce n'est pas un homme qui ne reconnaît pas la royauté de Jésus qui parle. C'est quelqu'un qui place sa vie, son espérance en Jésus-Christ. Cet homme était perdu. Il était dans les mêmes pensées que les autres. Et il va placer sa confiance et son espérance en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Un homme coupable de mort, attaché à une croix, place sa confiance dans un homme qui est attaché à une croix à côté de lui. Et qui plus est à un homme que tout le monde autour calomnie, insulte et se moque. Quelle foi à ce moment-là pour croire à un homme qui est cloué à une croix, pour reconnaître à cet instant de sa vie devant son péché que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est bien le Sauveur pour sa vie. Le malfaiteur fait ici une profession de foi. Il a cette ferme assurance de ce qu'il espère. Il a une démonstration de celle qui ne voit pas. Il a cette certitude dans sa vie que ce qui est invisible est aussi certain que ce qui est visible. Il a cette certitude que Jésus-Christ peut le sauver. Vous savez, en Hébreux 11, au verset 1, il nous est dit cette définition de la foi. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce brigand a cru dans une vie à venir. Et il a désiré être heureux dans cette vie à venir. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a souhaité être heureux dans cette vie à venir, pas comme l'autre brigand, qui voulait seulement qu'il le sauve de cette croix, qu'il descende et qu'il retourne à sa vie d'avant. Non. Ce brigand a souhaité et a mis son espérance dans une vie à venir. Toute sa demande est « Seigneur, souviens-toi de moi ». Il laisse à Jésus le soin de savoir de quelle manière se souvenir de lui. Il s'humilie dans une véritable repentance. Eh bien, Dieu a voulu dans sa grâce que ce brigand voie la vérité en Jésus, qu'il reconnaisse son péché et qu'il place son entière espérance en Jésus-Christ afin d'être sauvé. Et c'est par la foi que cet homme va obtenir le salut en Jésus-Christ. Et nous avons dans ce passage l'effet visible de cette foi. À ce moment-là, Jésus lui-même lui fait cette promesse. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel. Tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est cela la promesse de Dieu pour la vie de ce brigand. C'est le salut par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ qui devait donner sa vie afin que cet homme soit justifié par la foi. Paul nous dit toujours en Romains 3, versets 25 et 26, qui nous parle de la justification par la foi. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient une victime expiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus est mort ce jour-là. Il est mort ce jour-là à la croix, il est ressuscité le troisième jour, pour ouvrir les portes du royaume de Dieu à ce brigand qui avait cru en lui, pour ouvrir les portes du royaume de Dieu à tous ceux qui veulent placer sa confiance en lui. La mort de Jésus à la croix était donc nécessaire afin que s'accomplisse cette promesse « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis ». Et cette promesse s'accomplit aussi pour nous aujourd'hui. Pour celui qui place sa confiance en Jésus, il sera un jour avec lui dans le paradis. Alors quand je regarde ce passage ce matin, ce qui me frappe, c'est cet exemple presque unique dans l'Écriture d'un homme qui est sauvé alors que tout paraît improbable et même perdu. Au crépuscule de sa vie, que peuvent faire encore ces deux brigands pour être sauvés si cela était encore possible? Rien. Rien. Ils sont coupables. C'est acquis. Ils sont attachés et ne peuvent bouger. C'est acquis. Méritent-ils la mort? certainement, en tout cas aux yeux des hommes, pour ce qu'ils ont fait. On ne peut le constater, on ne peut que le constater, ils sont condamnés, c'est acquis. Alors que les hommes ont déjà condamné définitivement sur la terre ces hommes, et qu'il y a à cet égard plus aucun espoir, Dieu a voulu par sa grâce qu'ils vivent. Il souhaite encore, à ce moment-là, les racheter de leur faute. Il souhaite encore que ces brigands ne restent pas sous la culpabilité. Dieu souhaite encore qu'ils soient justifiés. Il n'y a rien pourtant qui pèse en leur faveur à ce moment-là. Et ils ne peuvent se racheter par eux-mêmes. Mais par grâce, Dieu souhaite qu'ils soient justifiés, non pas par leurs propres moyens, ils ne peuvent rien faire, je vous l'ai dit, mais gratuitement par le moyen de la foi en Jésus, qui va mourir là et qui est mort là pour nos péchés. C'est lui qui a payé le prix de nos fautes, en versant son sang à la croix comme victime expiatoire. Voilà ce que Dieu a voulu. Alors nous le savons, l'un des deux brigands n'a pas voulu considérer à ce moment-là ses fautes. Et il a préféré rester sous sa condamnation. L'autre malfaiteur, en revanche, lui, a considéré ses fautes. Il les a mis publiquement, il les a confessées publiquement. Et ce qui fait toute la différence, c'est qu'à ce moment-là de sa vie, il fait appel à la grâce divine. La justice de Dieu va donc se manifester dans sa vie, dans la vie de cet homme, par sa foi personnelle qu'il place en Jésus-Christ. La foi a donc cette place primordiale dans le fait qu'elle est au centre du plan du salut de Dieu pour tous les hommes. Sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable, nous dit la parole de Dieu. Le plan du salut que Dieu a voulu pour tous les hommes est que tous accèdent au salut, à la vie éternelle par le sacrifice de Jésus à la croix. Tous. Et par quel moyen il a voulu que nous accédions à ce salut? Par le moyen de la foi en Jésus-Christ. La foi a cette puissance de rendre visible ce qui est caché. La vérité de Dieu devient certitude, elle devient assurance, elle devient confiance et elle devient démonstration. La puissance et la grâce de Dieu est devenue démonstration dans la vie de ce brigand. Alors les brigands à la croix, finalement, ne sont pas, quand je les regarde, si différents de nous-mêmes. Alors certes, nous ne sommes pas des meurtriers, j'espère. Mais est-ce que nous avons une vie digne? Est-ce que comme ces brigands, nous ne nous sentons pas parfois déjà condamnés par les hommes, condamnés par nos propres fautes? Faut-il, comme ces brigands, que nous soyons aux yeux du monde et à nos propres yeux définitivement perdus? Est-ce que la blessure du péché est pour toujours incurable dans notre vie? Eh bien non, nous en avons l'exemple ici. Non! Dieu en a voulu autrement pour notre vie, parce que notre vie compte à ses yeux. Notre vie n'est pas rien à ses yeux, même la vie de ses brigands. Notre vie est tellement importante qu'il a sacrifié son Fils unique, qui a pris notre place à la croix pour nous sauver de la mort. La mort attendait ce brigand, il n'y a pas échappé. Mais il avait une vie bien meilleure qu'il attendait. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus a payé le prix fort. Et pour celui qui se reconnaît pécheur aujourd'hui et qui place sa confiance en Jésus, il passe de la mort à la vie. Ce pécheur, il est passé de la mort à la vie, au sens propre comme au sens figuré. Alors je peux dire, comme l'apôtre Paul au début, lorsque je considère ce que j'ai fait dans ma vie, je le vois comme une perte. Mais lorsque je considère ce que Jésus m'a accordé, ce qu'il a accompli dans ma vie, je le considère comme un gain. Alors je dirais simplement ce matin, pour terminer, si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas votre cœur. Alors si vous le voulez, on va passer simplement un petit moment dans le silence pour considérer ce passage puissant et qui nous révèle toute la grâce de Dieu qui descend sur nous, qui ne vient pas de nous, mais qui est vraiment un don de Dieu. Considérez dans ces paroles que ce n'est jamais fini et que notre vie est vraiment importante aux yeux de Dieu et qu'il offre à chacun et chacune aujourd'hui la possibilité de placer sa confiance en lui, d'être libéré du poids du péché. Il nous demande de placer notre confiance entière et totale en lui. En sommes-nous capables ? Est-ce que nous le voulons vraiment ? Mais c'est une invitation qu'il fait aujourd'hui. Placez votre confiance en Jésus. Passons un moment dans le silence.